Agnès Soubiran, bonjour.
Bonjour.
À la une de l'actualité ce matin, la Nouvelle-Zélande frappée par une attaque terroriste. La cible, deux mosquées de Christchurch. Pas de bilan chiffré, mais les autorités parlent d'un grand nombre de victimes et d'autres attaques à ce stade ne sont pas exclues. Les autres titres, Agnès.
Les jeunes du monde entier manifestent pour sauver la planète. Combien va toucher Carlos Ghosn pour ses derniers mois à la tête de Renault? Le bilan caché d'une semaine sans électricité au Venezuela? Et le livre pamphlet d'Edouard Louis, Qui a tué mon père, était d'abord un texte pour le théâtre. Il est donc joué en ce moment à Paris.
Les invités de France Inter ce matin, 7h50, l'écrivaine Yannick Lins, titulaire de la nouvelle chaire annuelle Monde francophone au Collège de France. Elle sera au micro d'Ali Badou. Et puis à 8h20, il avait lancé le mouvement politique Place Publique pour rassembler la gauche divisée avant les européennes. À ce stade, c'est un échec. Quelles conséquences en tirer? On posera la question tout à l'heure à Raphaël Glucksmann, l'invité du grand entretien de la matinale.
France Inter. La première ministre néo-zélandaise évoque ce matin des violences sans précédent dans cette île paisible du Pacifique Sud. Deux mosquées ont été attaquées ce vendredi matin, jour de prière, dans la ville de Christchurch. La police parle d'un nombre significatif de victimes. Franck Mathevon, que sait-on précisément à l'heure qu'il est de ces attaques?
Alors, les faits ne sont pas encore clairement établis. Des fusillades auraient eu lieu à deux endroits de Christchurch. Deux mosquées, en effet, l'une située dans le centre, l'autre dans l'est de la ville. Ces jours de prière, vous l'avez dit, il y avait donc de nombreux fidèles. On ne sait pas s'il y a un ou plusieurs assaillants. En tout cas, un homme s'est filmé en train de tirer sur les fidèles en direct sur Facebook. Des images insoutenables. Des témoins ont décrit un homme blanc vêtu d'une tenue de camouflage armé d'un fusil automatique. L'un de ces témoins, dans la mosquée Al-Nour, l'une des deux mosquées, a parlé à une télévision locale. Il est traduit par nos confrères de France 24.
L'imam a commencé à parler et tout était calme comme d'habitude. Tout à coup, les coups de feu ont commencé. Cela a commencé dans la salle principale. Le tireur devait se trouver dans le hall. Moi, j'étais dans une autre salle, donc je n'ai pas vu le tireur. J'ai vu des personnes s'enfuir dans la salle où je me trouvais. Certains avaient du sang et d'autres boitaient. C'est là que j'ai compris la gravité du moment.
Impossible d'obtenir un bilan précis de cette tuerie, de ces tueries. Aucune information officielle n'est disponible sur le nombre exact de victimes. Certains médias locaux parlent de 27 morts, mais ce n'est absolument pas confirmé. Un des enfants ferait en tout cas partie des victimes. D'après le New Zealand Herald, un journal local, un homme qui pourrait être le tireur ou l'un des tireurs serait un Australien qui a laissé un manifeste annonçant ses intentions. Il développe des idées d'extrême droite hostile aux immigrés, ce qu'a confirmé d'ailleurs à l'instant la première ministre néo-zélandaise. 4 personnes ont été arrêtées.
Merci Franck Mathevon, et ajoutant que la police néo-zélandaise demande aux fidèles d'éviter les mosquées partout en Nouvelle-Zélande en ce vendredi de prière.
Il est 7h04, Agnès, la planète est sauvée, les jeunes sont dans la rue.
De Wellington à Prague, de Washington à Lima, en passant par Paris, Brasilia ou Kampala en Ouganda, près de 2000 cortèges sont prévus aujourd'hui dans une centaine de pays, étudiants, lycéens, collégiens mobilisés pour exiger des gouvernements une réelle politique de lutte contre le réchauffement climatique. Figure emblématique de ce mouvement, la jeune Suédoise Greta Thunberg, suivie par des milliers de jeunes qui, un peu partout dans le monde, ont multiplié les initiatives. C'est le cas de ces deux lycéens de Bois-Colombes qui ont réalisé un tour de France des lycées. Mathilde Dehémy les a suivis.
Le bac blanc, enfin derrière eux, Baptiste et Paul se lancent dans leur propre tour de France du grand débat.
Bonjour monsieur le proviseur. Je me permets de vous envoyer ce mail pour une raison qui me semble des plus importantes.
Tout est un peu improvisé.
Nous sommes seulement des lycéens inquiets pour notre avenir.
Les jeunes filment leur périple en train, Lille, Strasbourg, Chartres et Caen.
On s'était dit que c'était intéressant d'avoir d'autres avis. On était sûr que les élèves pourraient rencontrer d'autres problèmes suivant leur région. Et on voulait absolument enregistrer ça.
On n'a pas du tout prêché la bonne parole en arrivant dans les lycées, on n'était pas du tout comme ça, mais c'était plus l'idée de faire réfléchir tout le monde et de prendre conscience donc, de la transition écologique, mais vraiment sur le long terme.
Prouver aussi aux adultes, aux grands, comme ils disent, que leur génération est concernée par la transition écologique.
Finalement, pour l'écologie, les lycéens ils proposent beaucoup, beaucoup de solutions très concrètes et qui sont applicables tout de suite.
Et les ados ont des idées. Adieu les pailles avec le soda et les douches trop longues. Ils veulent mieux trier leurs déchets et consommer local, raconte Jean-Paul.
Acheter local et le fait qu'un lycéen le dise, ça montre que c'est faisable pour peut-être enlever l'image du lycéen qui mange n'importe quoi et tout. C'est pas du tout le cas, c'est pas réservé à une élite, le bio ou à le vrac.
Baptiste, lui, est un peu inquiet de voir le grand débat finir. Nous, on commence à peine à s'organiser pour le climat, dit-il, et on veut être écouté.
Manifestation à partir de 13h à Paris, départ place du Panthéon direction les Invalides. Certains établissements vont tout de même organiser des débats sur le climat cet après-midi, comme l'a préconisé le ministre de l'Éducation nationale. Les élections européennes et Nathalie Loiseau a décidé de se jeter à l'eau en annonçant hier soir en direct à la télévision sa candidature pour mener la liste de La République en marche le 26 mai prochain. La ministre des Affaires européennes a profité de son face-à-face avec Marine Le Pen dans l'émission politique sur France 2 pour afficher ses ambitions. La fin du grand débat national, c'est officiellement aujourd'hui, même si des concertations vont se poursuivre dans les jours qui viennent. Le grand débat, c'est plus de 10 000 réunions publiques en deux mois, entre 400 et 500 000 participants, près d'1,5 million de contributions sur le site et des milliers de cahiers de doléances. Sans oublier les 11 débats menés par le chef de l'État. Première mesure attendue mi-avril, nous y reviendrons dans la chronique politique de Gaëlle Gauze. Dans une dizaine de minutes, les Gilets jaunes qui ont l'intention de manifester de nouveau demain à Paris. Débat encore, 9 heures de débat, des invectives, des suspensions de séance et finalement le vote. Les députés ont adopté hier soir par 42 voix pour et 17 voix contre l'article 49 du projet de loi Pacte qui prévoit de supprimer l'obligation pour l'État de détenir la majorité du capital d'ADP. En clair, l'Assemblée a donné son feu vert à la privatisation d'Aéroports de Paris, tollé de la gauche qui va saisir le Conseil constitutionnel. La page Carlos Ghosn est-elle réellement tournée chez Renault? Test grandeur nature ce matin au siège du constructeur automobile où se réunit le conseil d'administration sous la présidence de Jean-Dominique Senard. Un mois après l'éviction de Carlos Ghosn de son poste de PDG, le conseil doit notamment se prononcer, Maxime Deb, sur la rémunération pour l'année dernière.
S'il est une chose qu'on ne peut contester à Carlos Ghosn interpellé en novembre dernier, ce sont les 11 premiers mois de 2018 où, encore PDG, il assurait toujours les affaires courantes. À ce titre, l'ancien patron peut espérer une rémunération fixe d'1 million d'euros, mais aussi une part variable additionnelle que le conseil n'est pas obligé de lui verser. La décision que prendront ses membres en dira beaucoup de la situation chez Renault, selon Charles Pinel du cabinet Proxinvest, spécialisé dans les questions de gouvernance.
La rémunération variable de Carlos Ghosn au titre de 2018, donc son bonus annuel, est basée sur des critères subjectifs à l'appréciation du conseil. Et c'est là où on va voir l'emprise que détient encore Carlos Ghosn sur le conseil.
Chez Renault, cette semaine, le ménage a été fait. Mouna Seperi, fidèle parmi les fidèles de Carlos Ghosn, a été écarté, soupçonné d'avoir perçu 600 000 euros via la holding Renault-Nissan aux Pays-Bas. Restent malgré tout les audits commandés en décembre pour vérifier les irrégularités possiblement commises chez Renault. Certains sont toujours en cours à se demander pourquoi.
On aimerait bien savoir les raisons pour lesquelles le verdict de ces audits n'est pas encore communiqué, mais les actionnaires les attendent avec impatience.
On assure chez Renault simplement qu'il faut du temps pour tout vérifier. La réunion du jour permettra de faire un point d'étape sur l'enquête. La moindre des choses pour un connaisseur du dossier, 4 mois quand même après l'ouverture de ces investigations.
Il est 7h09 et c'est une journée test en Algérie.
Les annonces d'Abdelaziz Bouteflika n'ont visiblement pas convaincu la population qui ne croit pas en cette conférence nationale chargée d'élaborer une nouvelle constitution et d'organiser des élections sans Bouteflika. Des manifestations sont prévues aujourd'hui à Alger et dans plusieurs autres villes du pays. Que s'est-il passé durant la semaine où le Venezuela était plongé dans le noir en raison de la gigantesque panne d'électricité? Des ONG font état de plus de 300 arrestations de personnes accusées de protestations ou de pillages. Inquiétude également des familles qui ont un proche hospitalisé. Impossible de savoir le nombre de victimes de la coupure brutale d'électricité, même si certains témoignages commencent à arriver. Benjamin Delisle est à Caracas pour France Inter.
Devant l'hôpital pour enfants JM de Los Rios, plusieurs syndicats de la santé se réunissent pour manifester. Retenus par la police qui surveille l'entrée, ils réclament des informations sur le bilan de la coupure dans cet établissement resté 2 jours dans le noir. Argelia Castillo a plusieurs fois essayé de rentrer sans succès.
Les personnes qui ont ces informations ne les donnent pas parce qu'ils ont peur. Quand certains osent le faire, généralement des employés des hôpitaux, ils sont persécutés, maltraités et emprisonnés.
Autour d'elle, les forces spéciales, les FAIS, prennent les manifestants en photo. Ils ne disent rien, mais ils ceinturent le groupe comme pour l'inciter à partir. Finalement, un médecin urgentiste sort de l'hôpital avec sa blouse blanche. Vetnan Vera annonce qu'un patient est mort dans le week-end.
Il s'agit d'un patient qui était connecté à une ventilation artificielle. Nous n'avions ni les laboratoires ni la gazométrie artérielle qui aurait pu le sauver. Donc ce patient est mort à cause de la crise grave que notre hôpital traverse et qui a été aggravée par la coupure d'électricité.
Difficile de savoir combien des centaines de patients morts ce week-end l'ont été à cause de la coupure, mais pour les manifestants, une chose est sûre, il faut laisser rentrer l'aide humanitaire bloquée à la frontière pour sauver tous les patients en danger. Caracas, Benjamin Delille, France Inter.
Ils ont choisi de se donner du temps. Les 3 ans de discussion pour préparer les modalités du Brexit n'ont visiblement pas suffi. Les députés britanniques ont voté hier pour réclamer un délai supplémentaire à l'Union européenne, à 15 jours maintenant de la date prévue. Theresa May devrait donc présenter une 3e fois au Parlement la semaine prochaine le projet d'accord négocié avec Bruxelles. Aucun club de foot français ne disputera un quart de finale de Coupe européenne. Rennes hier soir s'est incliné à Londres en match retour des 8e de finale de la Ligue Europa, battue 3-0 par Arsenal. En finir avec Eddie Bellegueule, histoire de la violence, qui a tué mon père. Dans chacun de ses livres, Édouard Louis, jeune romancier de 26 ans, mêle récits personnels et considérations politiques, évoquant violence, homosexualité, laissés pour compte et sentiments d'exclusion. Des livres qui ont connu un vrai succès et fait couler beaucoup d'encre, notamment le dernier, Qui a tué mon père, joué en ce moment au Théâtre de la Colline par Stanislas Nordet et Stéphane Capron.
Ce texte a d'abord été écrit pour être joué sur scène. C'est une commande pour le Théâtre National de Strasbourg que dirige Stanislas Nordet. Lorsqu'en janvier 2018, Édouard Louis lui remet la première version, on est bien loin de l'agitation sociale que connaîtra ensuite la France avec les Gilets jaunes. Le texte, dans sa dernière partie, parle de la violence sociale qui broie les ouvriers. Édouard Louis ne tourne pas autour du pot. Il cite les récents présidents de la République, complices selon lui du meurtre de son père. C'est ce qui a séduit Stanislas Nordet, qui dirige une institution, le seul théâtre national situé en région.
Quand la crise dite des Gilets jaunes a éclaté, c'était incroyable. J'étais en train d'apprendre le texte et chaque mot que je mettais en moi résonnait avec ce que j'entendais à la radio l'après-midi. En France, on est beaucoup plus frileux. En Angleterre, tout le temps, il y a des pièces de théâtre sur les grandes scènes qui s'attaquent au pouvoir. C'est une tradition. Comme en Allemagne, depuis Karl Valentin. En France, on ne s'empare pas du fait politique. Et moi, je trouve qu'au contraire, c'est formidable que le théâtre puisse se saisir du monde.
Ce spectacle est aussi un formidable témoignage d'amour d'un fils à son père et c'est une performance scénique pour Stanislas Nordet, comédien tonique, physique, athlétique, pour qui le théâtre est le lieu de la profération.
Qui a tué mon père au Théâtre de la Colline à Paris jusqu'au 3 avril, puis au Théâtre National de Strasbourg à partir du 2 mai.
Merci Agnès Soubiran.